Chers frères et sœurs et chers amis, nous avons terminé notre dernière étude concernant le Notre Père par l'importance de veiller. Veiller, comme déjà énoncé, cela veut dire aussi faire attention. Fais donc attention, combattant du Seigneur, car les pièges de l'ennemi paraissent souvent tellement anodins. Et c'est sur la tête de certains intrus qu'il faut en effet frapper, et en leur refusant tout accès au-dedans de nous. Quels sont-ils, ces intrus? Et quelles sont leurs voies d'accès? Citons quelques-uns d'entre eux. Par exemple, tout d'abord nous avons l'orgueil. Ce magnifique instrument du diable pénètre en nous par le goût de la flatterie. Eh oui. Ensuite nous avons l'égoïsme qui nous empêche de renoncer à soi-même. Et après nous avons l'avarice, car c'est par l'envie de posséder toujours davantage qu'elle s'installe en nous. Et nous avons la convoitise. Elle profite de l'indiscipline de nos pensées pour se faufiler et s'imposer à notre esprit. Et nous avons l'incrédulité. C'est une incrédulité souvent sournoise. Elle se glisse dans l'âme par le trou de la négligence ou le Judas de la méfiance. Ne pas donner accès au diable, c'est encore refuser de lui donner une prise sur nous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est parfaitement claire quand elle dit aux chrétiens « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais elle vient, tout cela vient du monde. » Oui, chers amis, ils sont nombreux ceux qui sont tombés sous les coups du malin pour lui avoir donné accès en abaissant précisément certains panlevis de la mondanité. Les deux derniers conseils que l'Écriture sainte nous adresse ou adresse aux combattants et aux résistants du Seigneur et encore en territoire souvent occupé, sont magnifiquement positifs et virils. Voici par exemple le premier. Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 14. Quelles sont ces armes sans lesquelles on ne peut tenir contre l'adversaire? Oui, quelles sont-elles? Voyons un peu cela. Ce sont, et je les cite dans l'ordre biblique si possible, nous avons premièrement la vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Ensuite, nous avons la justice. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Oui, recherchons, chers amis, la justice avec amour. Soyons ses amis. Mais combattons toujours nos propres injustices d'abord, pour ne pas risquer de vouloir enlever la paille dans l'œil du prochain, quand nous serions peut-être affligés d'une poutre dans le nôtre. Ensuite, nous avons le zèle pour Dieu. Oh oui, car sans le zèle, sans flamme, sans enthousiasme, sans le Saint-Esprit, un chrétien ne résistera pas davantage dans ses combats qu'une armée sans chaussures et en terrain difficile. Mettez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous avons la foi. Ah oui, la foi, elle est un bouclier capable de recevoir des coups et les amortir. Elle peut amortir des vilains coups. Et le chrétien doit être un homme de foi, un homme qui exerce pratiquement sa foi. Prenez donc le bouclier de la foi. L'assurance du salut, ça c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et cette assurance, il faut non seulement la posséder, mais s'en coiffer constamment. Donc, prenez le casque du salut. Et nous avons la bonne épée. Oui, celle dont Jésus-Christ s'est servi contre le tentateur, c'est la parole de Dieu. Comme il est bon, chers amis, de savoir répondre aux insinuations du doute, ou par exemple de la crainte, ou encore du découragement, et ceci par un vigoureux « Il est écrit ». La Bible dit « Prenez donc l'épée de l'esprit ». Enfin, et je me suis réjoui d'en arriver à ce dernier conseil pour vous l'expliquer, l'Écriture sainte nous appelle à résister à l'ennemi. C'est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Jésus-Christ nous a donné le dépôt de la puissance et de l'autorité de son saint nom. Quand il le faut, nous pouvons y avoir recours et l'opposer à la puissance de l'adversaire. Mais comment faire? Eh bien, une illustration nous aidera peut-être à bien le comprendre. Archimède, c'était un grand physicien de l'Antiquité. Il a mis en déroute et anéanti la flotte romaine qui croisait au large de Syracuse. Et il a réussi cet exploit sans le secours d'aucune arme. Mettez-vous ça bien dans la tête, c'est presque incroyable. Il n'a fait que diriger contre les bâtiments ennemis au moyen de grands miroirs concaves, une puissance de la nature. Celle, voyez-vous, de la chaleur des rayons solaires. Et c'est ainsi qu'il a incendié les navires romains. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. De même, la puissance victorieuse de Christ peut être dirigée contre les assauts de l'ennemi par l'action d'une foi claire et concentrée. Voyez-vous, quand Satan te sert de prêt, tu peux livrer un combat de dégagement. Arrête-toi et, te saisissant de la puissance du saint nom de Jésus-Christ, lance-le, ce saint nom, et ceci par la foi, contre le géant et ses menaces, et dis à celui ou à ce qui te talonne, « Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, influence insupportable du malin, va-t'en loin de moi. » Et tu verras l'ennemi vaincre. Il sera vaincu, je répète. Et tu verras l'ennemi non pas de vaincre, c'est terminé, mais il sera vaincu, vaincu par le Christ, par le sang de Christ. C'est une puissance incroyable. Et l'ennemi va donc être obligé de s'enfuir, car lui et ses démons reculent devant le nom de Jésus-Christ qui est dirigé carrément contre eux. Ils reculent comme des lions qui reconnaissent leur dompteur. Mais tandis que nous agirons selon les conseils de notre manuel de résistant, notre sauvegarde sera de nous incliner chaque jour devant Dieu pour nous confier à sa providence et lui dire « Père Saint, délivre-nous, oui, délivre-nous du malin. » Si nous obéissons à cette invitation, à la prière et, bien sûr, également à l'action sincère, nous devons être sincères, et quelque grande que sera ou que seront les forces qui nous font la guerre, eh bien la puissance de la grâce, les anges du Seigneur et l'action du Saint-Esprit sont, croyez-moi, bien suffisants pour nous garder dans la forteresse de l'espérance jusqu'au jour, oui, jusqu'au jour de la délivrance qui vient et ne tardera pas. Même si le lion rugissant arriver par exemple à nous saisir, eh bien, voyez-vous, notre berger céleste nous délivrera en nous arrachant tout simplement à ses griffes. Et là, on peut dire Alléluia. Donc, prions les uns pour les autres selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Prions la prière de la foi, oui, la prière vicaire, c'est la prière nécessaire à la victoire. Oui, Seigneur, délivre-nous, délivre-moi du malin. Alors, agissons avec prudence et sans peur, réjouissons-nous à la pensée du jour proche et éternel, où le malin sera lié en vérité et à tout jamais. Ensuite, nous avons la prière du Seigneur qui nous dit « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Voyez-vous, l'une des grandes ruses de ce malin consiste à faire croire aux hommes qu'il possède lui, lui le diable, le règne, la puissance et la gloire, tout simplement. Il voulait même en convaincre Jésus-Christ dans la tentation au désert, lui montrant en un instant carrément tous les royaumes du monde, et il lui avait dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Il est exact, et oui, on ne dirait pas que le diable a une grande et terrible puissance. il est aussi exact que son règne s'étend sur ce monde et sur les cœurs avec une souveraineté implacable. Et il est encore exact qu'il dispose de richesses immenses qui lui font une sorte d'auréole. Mais attention, le règne, la puissance et la gloire ne lui appartiennent absolument pas, car au moment où il va achever la prière type qu'il enseigne à ses disciples, Jésus-Christ, il renverse les prétentions du diable et rappelle la vérité telle qu'elle est. Car le règne, la puissance et la gloire, au contraire de ce qu'il croit, ils appartiennent à Dieu et à nul autre que lui. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Il affirme que celui à qui les croyants s'adressent, celui qu'ils appellent du nom de Père, du fait qu'ils sont devenus ses enfants, eh bien, il affirme, dis-je bien, que ce Père n'est pas un pauvre Père incapable de donner aux siens ce qu'ils lui ont demandé. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Il faut pas non plus qu'il pense qu'il peut faire n'importe quoi. Non, car c'est à lui, à Dieu le Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et ils lui appartiennent dans tous les siècles, c'est-à-dire qu'aucun coup d'État ou aucune découverte, aucune maladie, absolument rien ne viendra le renverser, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Voyez-vous, la prière modèle a débuté par une invocation rappelant notre lien avec notre Père Céleste. Elle s'est développée par la présentation des trois requêtes concernant la gloire de Dieu et des trois autres ayant trait aux besoins de notre vie matérielle et spirituelle, et elle se termine par un chant de confiance. De même que l'Écriture sainte affirme que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de même, on peut dire que sans la présence et la propulsion de la foi de la prière, eh bien, la prière sans la foi n'existe tout simplement pas. Pour que la prière ne soit pas une récitation, si vous voulez, une vaine redite, une sorte de lamentation, une simple émission de mots sans puissance, eh bien, il faut absolument qu'elle soit animée par la foi qui donne cet élan audacieux et fervent de tout notre être vers Dieu. Dans la prière efficace, le courant vital de la foi s'établit entre deux pôles. Au début, l'invocation ou le contact de la foi, et à la fin, la déclaration ou la confession de foi. Je répète, dans la prière efficace, le courant vital de la foi s'établit entre deux pôles. Au début, l'invocation ou le contact de la foi, et à la fin, la déclaration ou la confession de la foi. Selon l'enseignement de Jésus-Christ, ainsi que nous l'avons fait remarquer, il y a tout d'abord le travail de l'invocation. Avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, il faut établir notre communication avec lui, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Le véritable enfant de Dieu commence par appeler son Père céleste. Il l'invoque, il s'approche de lui, il entre en sa présence, et cela peut parfois demander un certain temps. Le prenons-nous, chers amis, ce certain temps? Si l'oraison dominicale commence par une invocation, Notre Père qui est aux cieux, elle se termine par cette déclaration, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si l'un de ces pôles n'est pas en place dans l'esprit de notre prière, le courant de la foi ne saurait passer correctement au travers du centre, c'est-à-dire de la présentation de notre oraison et de nos requêtes. Donc, voyez-vous, expliquons cela ainsi. Un rivet est un clou à deux têtes qui fixe un ensemble. Or, les deux têtes du rivet de la foi, qui doit traverser, unir et même fortifier notre prière, sont, je le répète, l'invocation et la confession de foi. C'est souvent parce que cette deuxième tête du rivet n'est pas martelée, il faut la marteler, n'est pas fixée, que nos prières s'éparpillent et deviennent inefficaces. Donc, prêtons l'oreille à la voix du Seigneur, car elle nous révèle ici l'un des secrets de la prière victorieuse. Voici en effet ce que la dernière phrase de la prière modèle nous révèle. Après avoir présenté l'ensemble de ses requêtes, l'enfant de Dieu ne demande plus rien, mais il proclame la grandeur du Seigneur en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Croyez-moi, ce n'est pas là une simple terminaison poétique et sans importance. Dans la prière modèle, tout est gonflé d'une signification qui doit se développer. C'est ainsi que cette dernière phrase également, sur laquelle on passe d'habitude sans bien y prendre garde, contient un des mystères dont l'Église est dépositaire. Il y a là, enfermé dans la forme des mots, comme un secret que seuls les véritables enfants de Dieu peuvent comprendre et utiliser. C'est la confession parlée de leur foi. Comme elle est précieuse, oh oui, voyez-vous, quand l'âme y consent, et quand, après avoir exposé ses requêtes, elle s'emploie à proclamer la grandeur de Dieu, alors elle donne le mouvement de la vie à la foi qui traverse la prière tout entière. La déclaration de notre foi nous dépréoccupe aussi de nous-mêmes. Elle empêche que notre prière ne soit qu'une répétition accablante de nos malheurs. Elle nous délivre de la prison spirituelle de notre moi. Que serait la prière sans la déclaration de foi? elle fait que plus rien, ni personne d'autre que Dieu, personne d'autre que Dieu n'est l'objet de notre regard élevé et de nos pensées. Elle nous enlève ainsi et aussi la vieille et humaine peur de ce que se voit, de ce qui se voit et qui est la source absolue de tant d'incrédulité. Oui, elle nous fait entrer dans la joie et le repos de la foi. Elle dit au Seigneur, « Désormais, les choses sont entre tes mains. Là où je les ai laissées, je le crois, Seigneur, et je le déclare. » Quoique nous ne puissions pas l'expliquer pleinement, eh bien la déclaration parlée de notre foi est absolument indispensable à notre salut et à notre persévérance, comme à l'efficacité de nos prières. Dieu l'a décrété ainsi. Il a dit en effet, « Lisez attentivement, je vous prie, ces trois versets de l'Écriture sainte. » C'est ça la déclaration qu'il nous donne. Notez Romains chapitre 10 verset 9, Apocalypse chapitre 12 verset 11 et la première épître de Saint Jean chapitre 4 verset 15 où il est dit ceci, écoutons bien, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu le crois totalement dans ton cœur, eh bien, tu seras perdu. Eh bien non, heureusement qu'on va se réveiller. Et comment? Je répète, et là je vous dirai tel que c'est, et il faut le croire et ne jamais l'oublier. Car si, mes chers amis, de notre bouche, nous affirmons devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que c'est vrai, nous serons sauvés. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 9. Donc, si quelqu'un déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien, Dieu va demeurer en lui. Dieu demeure en effet en lui et lui demeure en Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 15. Dans ces textes fondamentaux, vous remarquerez que ce qui est exigé pour le salut et ce qui est nécessaire à la victoire finale, c'est le témoignage parlé. C'est non pas seulement l'impression, mais l'expression de notre foi devant les hommes et devant Dieu. Ainsi donc, après avoir invoqué Dieu pour lui présenter nos requêtes, apprenons à confesser des lèvres ce que notre cœur croit. Apprenons à développer l'expression de la foi dans la ligne de ce que Jésus-Christ nous a enseigné et de ce que l'Esprit-Saint nous inspirera. Car c'est à toi mon Dieu, oui, à toi, mon Père bien-aimé, Père souverainement élevé, qu'appartiennent, que sont en unique et complète possession le règne, et tu as l'autorité suprême sur les gens et sur les choses. C'est la puissance, ta puissance, tu as la capacité suprême, tu as le pouvoir d'opérer la gloire, tu as l'honneur suprême et tu sais le défendre. C'est donc à ce couronnement de la prière, c'est à cette confession de foi, c'est à ce parler de confiance qu'il faut nous exercer. Et quand nous consentons à déclarer ainsi notre foi, le Saint-Esprit ne tarde pas à remplir notre bouche et notre cœur de l'expression et de l'impression de la foi victorieuse. Et c'est alors comme une première et primaire manifestation de l'esprit prophétique dont Dieu souhaite animer ses fils et ses filles. La confession de la foi, couronnement de la prière, ensemence l'oraison et la rend fertile. Elle répand aussi dans l'Église et dans le monde les stimulants et les germes de la foi qui combattent l'incrédulité ambiante. Oui, la confession de la foi est une œuvre de vie et c'est une œuvre de salut et de victoire. Tout en nous repentant, chers amis, nous devons nous repentir d'avoir été par trop muets devant notre Dieu, d'avoir gardé la semence de la foi dans le sac de notre cœur. Ouvrons donc, chers amis, nos lèvres, et après chacune de nos prières, en face de ce qui se voit ou de ce qui se fait, proclamons le règne, proclamons la puissance et l'honneur de Dieu. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit prophétique, soyons des confesseurs de la foi, et Dieu, croyez-moi, nous fera voir son salut. Chers frères et sœurs et chers amis, nous avons la gloire, qui d'autre que Dieu pourrait posséder vraiment cette gloire? Qui d'autre que Dieu mérite la gloire? Le Dieu saint, lui, est absolument digne de la plus grande gloire. Les découvertes les plus extraordinaires ne sont rien en face de l'immensité et de la perfection de sa création. Les noms des plus grands libérateurs tombent bientôt dans l'oubli. Les libérations qu'ils ont apportées sont en effet partielles et limitées, tandis que le Christ, lui, nous offre une libération totale, une libération définitive, et à tous. L'amour de Dieu, enfin, sa bonté et sa miséricorde sont infinis comme lui. Sa bonté atteint jusqu'aux cieux, disent les psaumes, et sa miséricorde dure à toujours, déclare toujours la Bible, et elle s'étend d'âge en âge. Quant à son amour, il surpasse toute connaissance par son immensité. Personne ne pourra jamais faire le compte de tous les bienfaits de Dieu, et ceux qui le laissent intervenir dans leur vie, ils sont comblés de toutes sortes de bénédictions, ils débordent alors de bonheur. Le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours. Oh oui, et cela, il nous est dit dans le psaume, chapitre 23, verset 6. Parce que, voyez-vous, la gloire, elle appartient à Dieu. Le croyant peut donc implorer son secours avec l'assurance de l'obtenir. Et oui, ça c'est une assurance que Dieu nous donne de pouvoir obtenir son merveilleux secours. Et Dieu le nous accordera et le rend aussi capable, nous rendra aussi capable de lui rendre gloire et même de tout faire pour sa gloire. Quant à la puissance, eh bien dans les cieux comme sur la terre, Dieu fait tout ce qu'il veut. S'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, par contre, dit le Christ dans l'Évangile, à Dieu tout est possible. Qui est comme toi, puissant comme toi, ô Éternel? Et c'est ce que interroge le psaume 89. Par la bouche de ses prophètes, Dieu répond « Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a en point, il n'y en a point d'autre. Car c'est lui rappelle, il rappelle le prophète Jérémie qui a créé la terre. C'est ce que le prophète Jérémie a bien compris, que Dieu seul a créé la terre par sa puissance, et il a fondé le monde par sa sagesse, et rien, absolument rien, n'est étonnant de sa part. Je crois que c'est écrit au chapitre 10 de Jérémie, verset 12, et peut-être aussi au chapitre 32, verset 17. Mais ce n'est pas seulement la création qui témoigne de la puissance infinie de Dieu. La victoire de Christ sur le péché et sur la mort est aussi un témoignage éclatant de cette puissance. Dieu en a déployé l'infinie grandeur, nous dit la Bible, en ressuscitant Jésus-Christ des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Oui, la puissance lui appartient au siècle des siècles, et parce qu'il possède la puissance, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher d'accomplir tous ses desseins d'amour. Oui, croyez-moi, le croyant sait que personne, absolument personne, pas même le diable, ne pourra s'opposer au Tout-Puissant, selon Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Chers amis, bien des pages de la Bible affirment que son règne, lui aussi, est éternel. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais et son règne ne sera jamais, jamais détruit. Les règnes de Nebuchadnezzar, de Darius, d'Alexandre, de Charlemagne, de César Auguste, de Néron, comme de Napoléon et Hitler, ils ont absolument disparu. Celui de Dieu, par contre, était avant tous, et il est aussi après tous. C'est un règne éternel. Chers amis, la prochaine étude concernera la prière toujours de notre Père, mais elle va se terminer par le mot très important du mot « Amen ». Ce mot, souvent, personne ne le comprend vraiment. Et moi, je faisais partie de ceux qui ne le comprenaient pas non plus. Donc, soyez rassurés, si certains d'entre vous ne comprennent pas très bien le sens de ce mot, eh bien, vous allez enfin pouvoir bien connaître le sens de ce merveilleux mot. Pour le moment, avant de terminer ensemble par la prière, j'aimerais partager avec vous encore quelques pensées concernant l'importance, les émerveillements, en quelque sorte, que représente la prière. Prier, c'est décharger son cœur dans une confiance illimitée en l'amour paternel de Dieu. Et puis ensuite, poursuivre sa route joyeusement comme un enfant. Prier, c'est plein de joie, comme un enfant. Prendre ce que le Père nous a préparé. Il sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Prier, c'est courir comme un enfant auprès de son Père, et c'est en même temps l'aimer, lui présenter des requêtes et recevoir et lui remercier, le remercier de tout ce qu'il nous accorde. Ah, quelle activité bénie, non? Prier, c'est en quelque sorte me réfugier en esprit avec mes péchés dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Et là, croyez-moi, pouvoir trouver la guérison. Prier, c'est en tant que pécheur, se jeter dans la poussière aux pieds de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, et comme gracié, se laisser entourer de ses bras d'amour. Prier, c'est faire silence devant Dieu, faire taire les choses de la terre, écouter Dieu et le laisser parler. Oui, chers amis, prier, c'est se référer au nom de Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce nom est le plus puissant. Il rend la prière efficace pour notre rédemption. Et je terminerai par cette pensée. Prier, c'est saisir dans une attitude permanente de foi et de gratitude ce que Dieu, ton Père céleste, t'a promis dans sa sainte parole et de le remercier sans cesse. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble et nous terminerons la prochaine fois par ce merveilleux mot qui souvent n'est pas très bien compris, le mot « Amen ». Pour le moment, prions ensemble. Seigneur, Dieu de sainteté, dont le regard est trop pur pour voir le mal, nous sommes un peuple aux lèvres souillées, indignes de nous présenter devant ta face. Tu connais, ô Dieu, les iniquités dont nous sommes personnellement coupables et celles que notre lâcheté laisse chaque jour s'accomplir. Tu connais nos vices. Tu en sais les ravages moraux et physiques. Tu en dénombres les innocentes victimes sacrifiées à des divinités immondes. Seigneur, ô pardonne, Seigneur, aie pitié, accorde-nous une claire vision du mal à combattre et un ferme propos de lui livrer bataille. Et nous, et autour de nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, tout cela pour l'honneur de notre nation, mais surtout pour l'honneur de toi, ô Père Céleste. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et comment? Il vous aime réellement. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et comme je l'ai dit, la prochaine fois, la prochaine étude se terminera donc par le mot souvent pas bien saisi ou compris, ce mot Amen. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. À bientôt, à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.